Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de présenter la notion d'interopérabilité. Après quelques généralités, je montrerai deux manières simples d'utiliser l'interopérabilité à l'aide de JSON et à l'aide de l'interface entre Python et C. L'interopérabilité, c'est une notion qui n'est pas complexe du tout, c'est une notion très pratique. L'idée de l'interopérabilité, c'est simplement la capacité d'utiliser conjointement plusieurs systèmes. Voilà, c'est une définition très large. Si on entre un tout petit peu dans les détails, ça peut vouloir dire effectuer un développement informatique dans lequel vous utilisez plusieurs langages de programmation. Ça peut aussi vouloir dire avoir un système complexe composé de plusieurs programmes indépendants qui vont communiquer les uns avec les autres. En général, la question intéressante de l'interopérabilité, c'est de permettre cette communication entre ces langages de programmation ou entre ces programmes avec un surcoût aussi faible que possible. La notion de surcoût étant variable, en général, il y a deux dimensions. Il y a le surcoût lors du développement, c'est-à-dire à quel point ça demande plus de travail aux personnes écrivant le logiciel, et le surcoût lors de l'exécution, c'est-à-dire à quel point vous ralentissez votre système, de manière générale, du fait de l'interopérabilité. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, l'interopérabilité? Une raison classique, c'est que vous devez être amené régulièrement à connecter des systèmes existants, et il serait souvent délirant, supposons même que ce soit possible, de réécrire un système qui serait l'union de ces systèmes préexistants. Donc vous allez faire interagir ces systèmes existants. Et un autre grand cas classique, c'est pratiquement tous les développements logiciels, lorsqu'ils atteignent une certaine complexité, combinent plusieurs langages de programmation, plusieurs technologies. Donc les questions d'interopérabilité se posent tôt ou tard. Autre raison pour laquelle c'est un sujet intéressant en pratique, c'est que ça vous fournit des garanties de long terme. Donc là, c'est moins une question de nécessité, c'est plutôt une question de planification, une manière d'envisager l'avenir. L'idée, c'est que si vous êtes capable de faire interagir des systèmes, en général, ça veut dire que vous êtes capable de sauvegarder l'état d'un système pour le transférer à un autre système. Ce qui, à court terme, vous donne des bonnes propriétés de sauvegarde et à plus long terme, des propriétés d'évolution, parce que des systèmes peuvent disparaître, cesser d'être maintenus ou soudainement avoir des conditions commerciales qui ne vous satisfont plus. Donc, la capacité de l'interopérabilité, c'est aussi la capacité à faire sortir des données d'un système propriétaire pour les réutiliser ailleurs. Il y a un certain nombre de manières différentes de faire de l'interopérabilité. J'essaye pas d'être exhaustif sur ce transparent, je donne simplement les plus communes, que du reste je vais illustrer pour l'essentiel dans le reste de cette vidéo. Un grand classique, c'est d'utiliser un format commun, c'est-à-dire que si vous avez deux systèmes qui doivent parler, bah, le premier va émettre ses données dans un certain format. Vous allez donc récupérer des fichiers à ce format et vous allez passer ces fichiers à un second système. C'est une manière simplissime de faire de l'interopérabilité. Pardon. Un autre grand classique, c'est lorsque vous devez faire communiquer plusieurs langages. Très souvent, vous avez la possibilité, en particulier dans les langages de haut niveau, d'appeler un autre langage. Ce qui se passe en général, c'est ce que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo, c'est que dans un langage de haut niveau comme Python, vous êtes capable d'appeler le langage de bas niveau de référence qui est C. Une idée qui est liée à cette notion d'appeler un langage depuis un autre, c'est ce qu'on appelle la génération de ponts ou de glues. Là aussi, je montrerai sur un exemple. En fait, il s'agit d'une variante de l'idée précédente. Simplement, au lieu que tout soit écrit par le développeur, vous allez avoir un certain nombre de choses qui vont être générées automatiquement. Et enfin, dernière possibilité que j'évoque pas dans cette vidéo, mais qui existe, y compris dans le monde de Python, c'est que vous pouvez être amené à créer un langage hybride. Par exemple, vous avez un langage qui s'appelle Cython, qui est une sorte de d'évolution de Python qui va un peu vers le C pour essayer de trouver de bonnes propriétés, notamment en termes d'efficacité du langage C. Comme j'ai dit, une manière très commune, très simple d'atteindre l'interopérabilité entre des systèmes, c'est de se mettre d'accord sur un format commun. Et ce qui se fait très souvent, c'est d'avoir recours à un format largement utilisé, classiquement utilisé. Et ces dernières années, JSON joue le rôle de format intermédiaire. C'est un acronyme, JSON, pour JavaScript Object Notation. Donc, clairement, ça vient de JavaScript, donc du web. Mais désormais, vous avez des fichiers JSON dans des logiciels qui n'ont plus rien à voir avec le web. C'est simplement devenu un format de fichier qui sert de pivot entre les logiciels, donc exactement à des fins d'interopérabilité. Et une des raisons pour lesquelles c'est un langage ou une notation, un format de fichier qui est très apprécié, c'est que, comme on va le voir sur un petit exemple, il est très simple, mais en plus, vous avez un très grand nombre de langages qui ont les librairies nécessaires pour lire et écrire du JSON. Voilà à quoi ressemble un petit document JSON. Vous pouvez imaginer avoir ça exactement sous cette forme dans un fichier. Vous avez différents types de données, ici principalement des chaînes de caractères. Et une autre construction extrêmement utile de JSON, ce sont les associations clés-valeurs. Quand je dis ça, en Python, imaginez dictionnaire. Et donc, mes dictionnaires sont introduits et se terminent respectivement par des accolades ouvrantes et fermantes. Et à l'intérieur, j'ai la clé ici, les clés ici, auteur et titre, et les valeurs, qui sont ces valeurs composées, qui sont de nouveau des dictionnaires. Dans le premier cas, mes clés sont prénom et nom avec les valeurs Nicolas et Machiavel. Et dans le deuxième cas, les clés sont langue et intitulé avec les valeurs FR et Le Prince. Donc ce que vous voyez, ce sont des dictionnaires imbriqués. Et en JSON, il n'y a pas beaucoup plus que ça. Ici, toutes mes valeurs sont des chaînes de caractères. Mais je pourrais, ici ou là, aussi bien avoir des entiers ou des flottants. Et le dernier type de données qui existe en JSON, c'est la liste où les éléments sont séparés par des virgules à l'intérieur du crochet. Donc, ce que vous voyez immédiatement, c'est que les types primitifs comme chaîne de caractères, entier, flottant, on en a l'habitude. Le type des listes existe également en Python. Et le dernier type qui existe, ce sont les dictionnaires dont je vous ai parlé ici, qui existent en Python. Donc toutes ces données, tous ces formats de données existent en Python. Donc ce petit fichier qui contient la définition d'un ouvrage, je peux très facilement le représenter à l'aide de structures de données Python sans avoir rien à inventer. Et du reste, Python vient en standard avec un module qui s'appelle JSON, qui vous permet d'écrire et de lire de tels fichiers. Sur l'exemple de ce transparent, j'utilise json.load pour charger les données depuis mon fichier. J'obtiens un résultat que je stocke dans la variable doc. Et ce que vous voyez, c'est que j'ai passé doc ensuite à ma fonction printbook. Ce que vous regardez, même sans entrer trop dans les détails, c'est que dans ma fonction printbook, j'accède à l'auteur en utilisant la syntaxe classique de Python pour les dictionnaires et j'accède à titre de la même manière. Et quand je m'intéresse à l'auteur, de manière tout à fait semblable, j'utilise les clés prénom et nom sur ma variable auteur. Donc, encore une fois, le format JSON peut être représenté avec les structures de données de base que l'on connaît de Python. Et le module JSON va nous permettre exactement ça, décoder une entrée textuelle et construire un système de dictionnaires, de listes, de chaînes de caractères, d'entiers, sous la forme d'une valeur Python que vous pouvez manipuler comme vous en avez l'habitude. Donc, c'est une manière d'obtenir l'interopérabilité. Si vous avez en amont un programme qui a produit un fichier JSON. Ben, on vient de voir comment utiliser JSON.load pour lire ces données et obtenir une structure de données Python. Et si vous voulez interagir, interopérer avec un programme en aval, évidemment, votre programme Python est symétriquement capable de prendre un système de dictionnaire, de liste, de chaîne de caractères, etc. Et si vous le passez à JSON.save, de créer un fichier qui aura la représentation de JSON de ces structures de données Python. Une autre manière classique d'envisager l'interopérabilité, comme je l'ai dit, c'est d'appeler un langage depuis un autre, où je vais montrer sur quelques transparents comment vous pouvez faire interagir Python et C. Ce que je vais présenter là dans un premier temps, vous n'avez pas besoin d'autre chose que le Python que vous avez installé et un compilateur C. Pas besoin d'outils tiers. Je ne vais pas nécessairement entrer dans tous les détails parce qu'ils ne sont pas très intéressants. Je veux juste vous montrer à quoi ça ressemble et les difficultés que ça peut engendrer. Sur ce premier exemple, j'illustre simplement la manière dont vous pouvez, depuis du code C, exécuter des fragments de code Python dont vous disposez sous la forme de chaînes de caractères. Vous avez un include pour avoir accès aux fonctions qui vous intéressent. Vous voyez que mon programme principal commence par l'initialisation de Python et par un nettoyage de toutes les structures de données utilisées. Mais ce qui m'intéresse au milieu, c'est de voir que vous avez cette fonction Python Simple String à laquelle vous passez une chaîne de caractères en C qui contient du code Python. Et ce programme va exécuter eh bien, le code, évidemment, de cette chaîne de caractères. Vous voyez, vous pouvez avoir un premier pont entre les deux mondes sous cette forme-là, en demandant à C, depuis un programme C, d'exécuter un fragment de code Python. Évidemment, ce premier exemple est assez limité parce que il faut imaginer que la construction de la chaîne de caractères pourrait être relativement complexe. Et puis surtout, vraisemblablement, ma chaîne de caractères, je voudrais pouvoir lui passer des valeurs qui diffèrent en fonction de l'état de mon programme C. Ou symétriquement récupérer les valeurs calculées par Python. Sur ce transparent, je montre ce deuxième cas. Cette fois-ci, vous voyez que je vais passer un fragment de code Python comme ceci qui va calculer la valeur d'une variable L. Et sans entrer dans les détails qui sont relativement peu intéressants, ce que vous voyez, c'est que je vais avoir une méthode qui va me permettre, depuis le code C, de demander quelle est la valeur de la variable L. Et comme je sais que cette valeur L, je sais moi en tant que programmeur, que cette valeur L est censée être une liste, je peux en C écrire une portion de code qui va récupérer la longueur de cette liste et ensuite va itérer sur cette liste pour afficher chaque élément. Parce que ici, je sais aussi que les éléments que je suis censé récupérer sont des entiers. Donc je peux assez facilement écrire un code C en partant du principe que L, ça va être une liste d'entiers. Et il suffit d'écrire ce morceau de code pour que, après l'exécution de cette portion de code Python, je puisse, depuis C, accéder aux valeurs de la liste produite. Évidemment, le symétrique est parfois également intéressant. Le symétrique étant le fait de construire du côté de C des valeurs que je vais envoyer du côté Python. En bas de transparent, vous voyez un morceau de code Python que je souhaite exécuter et pour lequel il faut que préalablement j'ai défini une variable L. C'est ce que je fais dans la première partie de mon transparent ici, où de nouveau je construis une liste d'entiers. C'est une liste qui construit 7 entiers, dont vous avez les valeurs ici. Donc ce que vous voyez, c'est que je vais construire en C, dans cette variable liste, bien, ma liste Python, en créant une liste de 7 éléments et en ajoutant aux différents indices, en plaçant aux différents indices, les valeurs 1 à 13 qui m'intéressent. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai construit, encore une fois, du côté de C, une liste Python qui est utilisée lors de l'exécution de ce fragment-ci. Vous pouvez évidemment aller encore plus loin. Et ce que vous serez amené à faire le plus souvent, si vous voulez faire interagir Python et C, c'est en fait d'écrire en C un module Python, qui, du point de vue de Python, sera un module comme les autres, mais dont l'implémentation aura été écrite en C, et qui donc, selon toute hypothèse, sera sensiblement plus rapide. Ce que vous avez ici, c'est l'implémentation d'une fonction qui fait la somme de deux vecteurs. J'entre peu dans les détails qui sont assez rébarbatifs, mais vous voyez que la manière d'écrire cette fonction consiste à dire que vous allez prendre un certain nombre d'arguments, un certain nombre de paramètres pour votre fonction, et que vous devez ensuite vous charger manuellement de découper cet argument en le nombre de paramètres effectifs de votre fonction. Ici, deux paramètres, puisque je veux faire la somme de deux vecteurs, comme indiqué par le nom. Et une fois que j'ai fait ce découpage, je peux réutiliser des choses que j'ai vues sur les transparents précédents, récupérer la taille de chacune des listes, créer une liste résultat et itérer pour à la fois récupérer les valeurs dans mes deux listes et construire ma nouvelle liste que je renvoie en fin de fonction C. Ça va me permettre de construire ainsi, en C, une fonction qui sera appelable depuis Python. Tout ce qui me reste à faire ensuite, c'est de donner différentes informations à Python sur le module que je souhaite construire. Et ici, j'imagine que je construis un module qui va contenir cette seule fonction. Donc je vais indiquer le nom que je souhaite lui donner côté Python, le nom utilisé du côté du C, éventuellement la documentation. Et le reste me sert simplement à donner, par exemple, le nom de ce module côté Python. Une fois que j'ai fait tout ce travail, je peux appeler une fonction qui s'appelle PyModuleCreate, qui va effectivement construire ce module, encore une fois côté C, mais qui va maintenant être accessible à Python. Et du côté Python, tout ce que j'ai à faire, c'est un import de mon module, comme j'en ai l'habitude. Et ensuite, je peux appeler sur ce module ma fonction vecSum avec des listes d'entiers, et j'aurai bien le résultat attendu. Et ce qui se passe, simplement, c'est que j'ai un programme hybride, dont le programme principal, ici, est écrit en Python, mais dont la fonction vecSum est en fait écrite en C. Donc, encore une fois, l'avantage, qu'en toute hypothèse, cette implémentation est plus rapide que si j'avais écrit la même chose en Python. Même si sur cet exemple simple, ce n'est pas nécessairement très convaincant. Tout ceci fonctionne relativement bien, mais même en entrant relativement peu dans les détails, vous avez vu à quel point c'est verbeux. Donc c'est vraiment ce que j'ai montré là, c'est vraiment les fonctions qui sont disponibles, qui vous sont données par Python pour être manipulables depuis C. Mais c'est très verbeux, c'est très rébarbatif. Et donc vous avez un certain nombre d'outils qui se situent à un niveau au-dessus, qui vous offrent de meilleures abstractions. Et ce sont ces outils que vous allez vouloir utiliser en pratique, je pense. Et notamment l'outil PyBind que je vais présenter sur quelques transparents pour vous montrer notamment par contraste à quel point il est facile d'utiliser PyBind pour faire le lien entre Python et C ou C++. Des include qui change légèrement, au lieu de faire référence à Python, je fais référence à PyBind, mais ce n'est pas ça la chose intéressante ou importante. Ce qui est intéressant ou important ici, c'est de voir que je propose une autre implantation de vecSum, mais que cette fois-ci, vous voyez, grâce à des py de point de point, que j'utilise des types C++ pour pour représenter les types que je m'attends à avoir côté Python. D'accord, dans les transparents précédents, je devais faire ce découpage automatiquement. D'accord. Ici, j'indique dès la signature de ma fonction que vectSum va prendre deux listes et va renvoyer une liste. Et ensuite, ce que vous voyez, c'est que le corps de la fonction lui-même est plus simple. En particulier, si on se focalise sur la boucle for qui effectue le calcul, vous voyez que pour construire ma liste résultat, j'utilise append sur les valeurs lues depuis mes deux listes reçues en paramètres. Précédemment, lorsque je n'utilisais pas PyBind, au lieu d'utiliser cette notation d'indexation, je devais utiliser une fonction qui me permettait d'accéder à un indice de ma liste. Et ensuite, parce que je savais que cette liste est un entier, je pouvais la convertir, etc. etc. Ici, tout ce travail est fait automatiquement par PyBind, ce qui fait que vous avez un code C++ qui est relativement facile à lire et qui ne contient pratiquement rien de spécifique à Python, si ce n'est, comme je l'ai dit, les types que vous utilisez. Et ces types indiquent à la librairie la manière, évidemment, d'interagir avec le mode Python. De la même manière, pour définir votre module, vous avez quelque chose de beaucoup moins verbeux que précédemment. Et pour définir votre module, dont j'ai légèrement changé le nom ici, vous allez juste avoir à donner la documentation que vous souhaitez fournir à ce module, et ensuite lister les fonctions qui font partie de ce module. Tout cela ne change rien du côté Python. C'est-à-dire que mon programme principal Python reste le même. Simplement, l'énorme bénéfice que vous voyez de PyBind, c'est que c'est beaucoup moins verbeux et que vous pouvez très facilement, depuis C ou C++, lire ou écrire des valeurs Python.